dans une comédie musicale traditionnelle, il faut faire croire au spectateur que les choses sont extrêmement faciles. Et la liberté du corps de l'acteur doit donner cette impression de fluidité. Sauf qu'il arrive à un moment donné où, même si on est Gene Kelly ou Fred Astaire, on peut faire une petite erreur de mouvement, où on peut tout simplement être essoufflé. Et à ce moment-là, il y a une nécessité de refaire la prise, mais si au bout de plusieurs prises, on n'y parvient pas, on est bien obligé de faire un montage des différentes prises en prenant là un plan qui convient, ici un autre plan qui convient mieux. Donc, effectivement, au niveau du découpage, on pourrait supposer qu'il y a le refus du plan séquence, comme vous l'avez souligné, pour dynamiser un petit peu au niveau du rythme. Et il y a peut-être aussi la nécessité du corps de Gene Kelly. En revanche, effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, tenant compte de ces nécessités corporelles, le montage, lui, adopte un rythme qui coupe à un moment précis où la musique correspond elle-même à une coupure. Et donc, à ce moment-là, vous avez en fait la conjonction des deux éléments que vous avez évoqué et que j'ai évoqué, à savoir d'une part volonté de rythmique et d'autre part nécessité de la réalité physique du corps de l'acteur. Vous voyez ? Et tout ceci sous-tend une théorie du montage. Alors vous voyez, on en revient sans arrêt à... C'est que chez les Américains, dans le montage hollywoodien classique, on est dans le domaine de la fascination et donc de l'absence de rupture de la diégèse dont on parlait ce matin à propos de l'interdit aux chiens aux Italiens. Vous voyez, on retombe sans arrêt sur les mêmes problématiques. Bon, c'est que il faut donner au spectateur l'impression de facilité et il faut donner au spectateur l'impression surtout qu'on est dans un spectacle et qu'on doit y rester de façon à ce que le spectateur absorbé, fasciné, ait envie d'acheter à nouveau une place de cinéma. Là, c'est une théorie à la fois esthétique et narrative qui a en même temps des visées mercantiles. Vous voyez, le cinéma est un art, mais aussi une industrie, hein, disait Malraux. Donc, vous voyez que votre analyse, qui me semble vraiment très intéressante, peut se conjuguer à des réalités plus triviales et par derrière à une conception plus générale du spectacle. Voilà. Alors, ça n'empêche pas de se poser la question de savoir pourquoi cette volonté-là de créer une difficulté technique. Bon, évidemment, vous allez me dire, il y a la volonté de faire preuve de savoir-faire. Bon, d'accord, mais il y a aussi beaucoup d'argent derrière. Une séquence comme celle-ci coûte très cher, donc il faut qu'elle soit justifiée aux yeux du producteur. Alors, essayons de récapituler toutes les difficultés que vous avez bien résumées, mais que je vais vous détailler un peu plus. Et après, on va voir à quoi tout ça sert. Bon, première remarque. La séquence doit servir à quelque chose dans la narration. D'autre part, le film est créé à partir de la chanson d'Arthur Freed, qui remonte à la fin des années 20, et qui s'intitule précisément « Chantons sous la pluie ». Donc, le film est bâti autour, mais il s'agit, en bâtissant le film autour de cette chanson, de donner sens à cette chanson. Et effectivement, Michel Chion, dont je vous parlais tout à l'heure à propos du son « in, off » ou « hors champ », a analysé la chanson d'Arthur Freed en comparant l'original avec le traitement qu'il est donné dans la séquence que nous venons de voir. Et la conclusion qu'il en tire est la suivante. À la base, la chanson est mélodramatique parce que finalement, la pluie, ça n'est pas quelque chose de gai. Il s'agit de transformer cet aspect mélodramatique qui est quand même présent encore dans les paroles du film en une explosion aussi de joie, d'une part, et d'autre part, en évolution du personnage qui, comme je vous le disais ce matin, sort de l'enfance pour entrer dans la maturité grâce à la révélation de l'amour qu'il éprouve et qu'on lui rend en retour. Donc, il s'agit de marquer cette évolution. Par quels moyens ? On conserve la chanson, on utilise une orchestration différente, à savoir qu'on va avoir ici une orchestration symphonique beaucoup plus appuyée. Premier point. Deuxième point, il faut justifier la place de la chanson dans le film. Donc, on va imaginer le personnage ramenant la jeune femme chez elle et ensuite chantant dans la rue, donc à lui-même et au spectateur, sa joie. À partir de là, il faut que la musique entre tout doucement, je dirais, sur la pointe des pieds dans le film, de manière à ce qu'elle puisse se déployer ensuite pour nous faire comprendre quel est le commentaire de l'état intérieur du personnage. Donc la musique, elle devient à la fois totalement empathique, c'est-à-dire qu'elle nous fait ressentir les sentiments du personnage, mais en même temps, on peut dire qu'elle est presque un agrandissement de l'espace et un agrandissement des 10 sentiments. Bon. Alors, ce qu'a dit Michel Chion, moi je ne suis pas musicologue, donc je vous transmets ce qu'il dit. Il dit que pour lancer la chanson, Gene Kelly et Stanley Donen ont décidé d'utiliser des notes de musique qui soient en résonance avec les gouttes de la pluie. Voilà. Et pour sortir de la chanson, on ajoute un élément au couplet final de la chanson, c'est « je danse sous la pluie », pas seulement « je chante sous la pluie ». Pourquoi « je chante et je danse sous la pluie » C'est pour faire accepter au spectateur l'absurdité de quelqu'un qui prend des trompes d'eau sur le crâne en étant très content. Et à ce moment-là, pour faire accepter au spectateur cette absurdité, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Michel Chion, on fait intervenir un personnage typique, le cop, le flic. Alors que représente le flic, particulièrement dans le burlesque? Vous voyez les Keystone Cops au début du cinéma burlesque. Le flic, c'est l'incarnation de la loi sociale, mais par voie de conséquence, des lois qui régissent notre comportement en société. Et il faut savoir que la société américaine, dans les années 10-20, était extrêmement répressive et que le flic, c'était l'incarnation de cette société répressive. Ce n'est pas un hasard si Laurel et Hardy, si Chaplin, etc., passent leur temps à donner des coups de pied aux fesses aux cops. Ce n'est pas un élément de comique vulgaire, c'est un moyen d'expurger l'impression d'oppression que les gens ressentaient dans la société américaine. Donner un coup de pied aux fesses aux cops, c'est donner un coup de pied dans toutes les conventions, dans toutes les structures sociales qui vous oppriment, vous voyez. Et donc ici, le flic qui apparaît, c'est cette vision de la société qui réprimande l'explosion de joie de Gene Lockwood, en l'occurrence Gene Kelly. Mais, de Don Lockwood, en l'occurrence Gene Kelly. Mais en même temps, c'est une façon pour nous de permettre à la chanson de se terminer et à Don Lockwood de redescendre tout doucement sur Terre et de finir sa transformation de gamin en adulte. Alors là, on a une justification, si vous voulez, du pas de danse, de la musique et de la comédie musicale, puisque nous avons avancé dans la narration et dans l'état d'esprit du personnage. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Il faut mettre en musique cette chanson pour traduire l'explosion de joie du personnage. On va mettre une pluie qui va scander évidemment la chanson, mais avec une intensité plus ou moins forte, parce que ça correspond à l'évolution des paroles de la chanson et l'évolution de la chorégraphie du personnage. Et par voie de conséquence, par certains moments, il va être sous une gouttière, il va recevoir un seau d'eau, d'autres fois, il n'y aura plus que quelques gouttes, vous voyez. Et à partir du moment où on a accepté cette idée-là, il s'agit d'adapter les mouvements de caméra, ce que vous aviez dit tout à l'heure, et pour ce faire, on va avoir tantôt la caméra qui se rapproche de lui pour établir entre nous et lui une sorte de communion, parce que quand on s'approche du visage de quelqu'un, on entre véritablement en empathie avec lui, et puis à un autre moment, quand le personnage va se lancer dans une explosion de joie absolue, à ce moment-là, la caméra va reculer en travelling arrière, comme vous l'avez vu, voire elle va monter en panoramique ascendant, parce que ça va correspondre à toute la joie qu'il envoie dans l'univers. Donc le mouvement de caméra n'est pas un mouvement, je dirais, de chorégraphie gratuite, on va voir tout cela tout à l'heure avec Yuli, c'est à la fois l'accompagnement, le commentaire, l'illustration de l'état intérieur du personnage. Vous voyez ? Et à ce moment-là, pour montrer cette évolution du personnage, on va avoir recours à ce que vous avez souligné tout à l'heure très justement, c'est que le plan séquence, ou tout au moins ce qui donne l'illusion d'être un plan séquence, nous fait comprendre qu'à ce moment-là, nous sommes dans un temps réel. L'intérêt du plan séquence, c'est de montrer qu'il n'y a pas de coupure, donc pas d'ellipse, ni spatiale, ni temporelle. À partir de là, cette évolution se fait, entre guillemets, le temps de la chanson, donc en temps réel, vous voyez. Et évidemment, comme il s'agit de montrer cette explosion de joie, on va intégrer la séquence à un moment du film qui se déroule le soir, donc la séquence va durer de nuit, mais ça va permettre en plus de créer un contraste supplémentaire entre les éléments naturels, la pluie, la nuit, et l'évolution du personnage. Et ce contraste va permettre en même temps, si vous voulez, d'amplifier les sentiments du personnage. Sauf qu'une telle séquence ne peut absolument pas être tournée en extérieur parce qu'il y a tellement d'éléments à dominer que vous êtes obligé de passer par le studio. D'où encore une fois cette nécessité d'avoir de l'argent et cette nécessité, si vous voulez, de pouvoir régler tout, non pas à la minute ni à la seconde près, mais même à des fois à la fraction de seconde près. Et donc il s'agit pour l'acteur d'être parfaitement synchrone, sachant que bien entendu il sera post-synchronisé, parce qu'il ne peut pas vraiment chanter comme cela, ne serait-ce qu'à cause des difficultés que représente la prise de son, de même que les claquettes elles-mêmes seront post-synchronisées. Mais il ne faut pas que ça soit perceptible au niveau du spectateur. Donc, vous comprenez le travail qui est opéré pour cette fameuse post-synchronisation. Dans l'impression d'ensemble, on a un mélange d'effets de réel et d'effets d'artificialité totale. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. À la fois, on reconstitue une rue et en même temps, on sent que c'est du décor, quoi. On sent que c'est du décor, c'est revendiqué. Alors, les différents éléments devant lesquels ils passent, je pense qu'ils peuvent être en résonance avec les différents éléments intérieurs et d'évolution du personnage. Par exemple, vous avez parlé de l'école, vous voyez? Et moi, tout à l'heure, je vous parlais du passage de l'enfance à l'âge adulte. Vous voyez? La jeune femme qui est dans comment dire, la vitrine, qui est une caricature publicitaire. Est-ce que c'est, je dirais, une sorte de représentation de l'amour ou de la passion qu'il éprouve? Je ne sais pas. Je vous avoue que là, j'ai peur de la surinterprétation, mais pourquoi pas? Donc, ce qui est évident, si vous voulez, c'est que de toute façon, ces éléments de décor, ça c'est sûr, et je vais y venir, je suis désolé, je ne veux pas aller plus loin parce que je me méfie de l'impression, parce que l'impression, c'est bien s'il est, je dirais, dans l'ensemble de l'analyse, mais parfois, on va peut-être un peu trop loin. Donc là, je vous avoue que je me suis posé la question, cette réponse, je vous la donne sous toute réserve, ça correspond à l'état intérieur du personnage, peut-être à son évolution, faut-il aller plus loin? Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Et je n'ai pas trouvé de réponse. Maintenant, elle existe sûrement. Hein? Voilà. Ensuite, donc, ce que vous dites montre une chose, c'est qu'il s'agit d'éclairer la séquence. Et là, vous l'avez parfaitement souligné, monsieur. C'est-à-dire que la difficulté consiste à donner l'impression que la séquence se passe de nuit. On a bien l'impression de nuit. Mais il faut qu'il y ait des points de lumière pour qu'on puisse suivre la chorégraphie complètement, qu'il y ait un jeu de lumière sur la pluie et les flaques d'eau, et il faut en plus de ça, difficulté supplémentaire, que le visage de l'acteur soit toujours dans la lumière. Or, il bouge et la caméra bouge. Alors ça signifie qu'à la fois, il va falloir régler la lumière sur tous les points où il va passer, sans qu'on sente un passage de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre, et il faut en plus de ça que quand le cadreur s'approche ou s'éloigne de l'acteur, la mise au point qui est sans arrêt la ville changeante, soit suffisamment nette pour qu'on ne voit pas de différence. C'est excessivement difficile avec des caméras qui font 35 kilos, hein, quand même. Et d'ailleurs, souvent, le cadreur avait à côté un assistant mis au point. Mais ajoutez à cela la difficulté ultime, quelle est-elle? Ce n'est pas la synchronisation de la pluie avec les mouvements de Gene Kelly, c'est la pluie elle-même. Vous avez des milliers de volts sur l'écran, à la fois pour la caméra, mais aussi pour l'éclairage, etc. Et c'est excessivement dangereux, parce que si jamais vous avez, je dirais, un court-circuit quelque part, les gens qui ont les pieds dans l'eau, c'est l'électrocution garantie. Donc vous voyez un petit peu la difficulté. Mais encore une fois, cette difficulté technique n'est pas gratuite. Évidemment, ils ont pris du plaisir, c'est extrêmement à se compliquer la vie. Hein. De temps en temps, on aime bien faire des choses difficiles. C'est la spécialité de Max Ophüls, par exemple. Mais en même temps, cela a du sens, parce que le plan séquence, sous la pluie, dans un décor en studio, ça signifie, un, oui, on est au cinéma, on fait du cinéma. Deux, il faut qu'on marque le contraste entre le monde réel, où on ne danserait pas sous la pluie, et le monde rêvé du personnage. Trois, je traduis l'évolution de la pensée et des sentiments du personnage. Et quatre, je donne au spectateur une impression de bonheur, d'exaltation absolument fluide et facile. Eh bien, écoutez, il faut le faire hein, quand même. Voyez, c'est pour ça que cette séquence est restée aussi célèbre dans les annales du cinéma. Mais vous montrez ça à vos élèves, vous dire, ouais, bon, c'est un gars qui fait le clown sur la flotte, point, terminé. Non, mais c'est vrai, quoi. Et il faut leur faire comprendre plusieurs choses. D'abord, que c'est un genre qui n'est plus de mise de nos jours. Deuxièmement, qu'il y a un énorme travail derrière auquel ils ne sont plus habitués parce qu'ils ont l'habitude des images de synthèse. Avec le numérique, on fait n'importe quoi comme on veut. Mais là où ça peut être intéressant, là j'aimerais avoir d'ailleurs retour de votre part, c'est que pour moi, je suis tout à fait pour la technologie. Quand j'ai le Seigneur des Anneaux, par exemple, j'entre totalement dans le film et j'accepte complètement tous les personnages qui sont en image numérique. Ça fait partie de l'univers du film. Puisqu'on est dans un univers d'heroic fantasy, allons jusqu'au bout dans la fantasy et, je dirais, acceptons l'artificialité de ces images qui participent d'ailleurs à la rêverie que provoque cet univers. En revanche, quand je vois le film de Brian De Palma, le premier Mission Impossible, où Tom Cruise saute d'un hélicoptère sur le toit du TGV qui est lancé à toute vitesse sous le tunnel sous la Manche, là, je n'entre plus parce que je sens l'artificialité et je n'éprouve plus la sensation de danger réel qui menace le personnage. Et pour moi, ça ne fonctionne plus là. Voyez. Donc, avec vos élèves, posez-vous deux questions. Premièrement, est-ce qu'ils sentent, eux, l'incarnation véritable du personnage, le corps du personnage, la matérialité du personnage? Deuxièmement, est-ce que eux, ils sentent cette différence entre l'artificialité des images de synthèse qu'on a dans les Marvel, et qui n'est pas gênante du tout, puisque les Marvel, c'est un autre univers, ou est-ce que, au contraire, ils sont sensibles entre ces images fabriquées de toutes pièces et les images où on sent le corps et les tendons, les muscles de l'acteur? Ça peut être intéressant par rapport à leur rapport au réel, à leur perception du réel. Voyez. Alors je ne sais pas, vous me direz, vraiment j'aimerais que vous disiez à Madame Berthaud ou à moi si vous avez eu des réactions des élèves, parce que, je veux dire, ça nous permet de voir les écarts qu'il y a entre les générations et la façon dont nous, spectateurs, professeurs, percevons le spectacle filmique. Et pourquoi nous n'avons pas forcément les mêmes goûts que nos élèves? C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Le avant, c'était mieux. Moi, j'y crois pas du tout. Simplement, il y a une évolution. Et notre travail d'enseignant, c'est d'affiner le goût esthétique des élèves pour leur faire prendre conscience, comme dirait Frébault, qu'il n'y a pas de vieux films, il y a des bons et des mauvais films, même si la technique est complètement dépassée et surannée. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est l'essence du film. Voyez. Donc, à chaque fois, je me permets de vous donner des pistes pour aller au-delà de la simple illustration du film que nous étudions. Au niveau de la technique et de l'intelligence artificielle, il n'y a aucun problème. On peut faire ce qu'on veut avec un acteur. Regardez Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, que je trouve pas mal du tout. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Vous avez vu Harrison Ford, dans le film, il a 20 ans ou 30 ans de moins que ce qu'il paraît actuellement. Et ça ne se sent pas. C'est remarquablement fait. Sauf que ça pose plusieurs problèmes. Des problèmes d'ordre financier, des problèmes d'ordre esthétique, des problèmes d'ordre moral. Au niveau des financiers, normalement, l'acteur doit avoir le droit à l'image. Nous avons tous notre droit à l'image. Sauf que s'il a signé, suivant les contrats qu'il aura signés avec la société pour laquelle il a tourné tel ou tel film, on peut très bien le faire sortir de sa tombe s'il a signé une décharge. Et faire de lui ce qu'on veut. Donc imaginez le fait que l'un d'entre nous ait joué dans un film, il est mort, il a signé ce droit, bon, on le ressuscite, tant mieux, on le fait beau, tant mieux, on le fait moche, plus ennuyeux. On le fait jouer dans un film pornographique ou un snuff movie. Ennuyeux quand même. Hein? Vraiment. Alors, il y a là les deux choses qui se conjuguent, l'aspect financier et l'aspect moral. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez eu, effectivement, vous avez peut-être entendu parler de cela, des grèves de scénaristes qui ont été relayés par des grèves d'acteurs qui ont senti totalement le risque, parce que l'intelligence artificielle ne se contente pas de remplacer des acteurs, ce qui sera tout à fait possible, elle pourra remplacer des scénaristes. Il y avait un épisode de Chapeau Melon et Bottes de Cuir au début des années 60 qui imaginait bien une machine à fabriquer les scénarios. Donc c'est pas nouveau hein, comme préoccupation. Mais effectivement, la question que vous posez, elle est très pertinente, mais le vrai problème, c'est que nous allons, je dirais, la technique va beaucoup plus vite que nous. Et ce matin, oui, on est vraiment dans l'actualité. J'écoutais une des analystes qui expliquait pourquoi Elon Musk avait rejoint le camp de Trump. Ce n'est pas parce qu'ils se ressemblent ou qu'ils s'aiment, mais c'est simplement parce que Trump, lui, veut absolument libérer totalement ce qu'il appelle libérer la société américaine. Et ça fait l'affaire des géants du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc Elon Musk, il est aussi intéressé directement à cela. Et l'une des batailles que va lancer Trump et Musk, etc., ça va être de faire plier les lois européennes, qui, elles, sont beaucoup plus protectrices et, je dirais, beaucoup plus restreintes par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle que ne le sont les États-Unis. Ce qui provoque un double problème. un, la résistance de l'Europe vis-à-vis de cela, mais aussi le retard que l'Europe peut prendre dans la conception de l'intelligence artificielle au risque de se faire dépasser par les États-Unis, par la Chine. Alors, vous voyez, votre question, elle va encore beaucoup, beaucoup plus loin que vous pensez. Et effectivement, c'est une question fondamentale pour notre société, fondamentale.
Oui, mais je veux dire, c'est très très riche la réflexion que vous avez là, et vos élèves l'ont aussi. Si elle leur dit, oui, mais tu as raison, mais c'est mal fait, parce que pour nous, maintenant, c'est mal fait. Mais il y a 40 ans, et là, vous pouvez leur faire l'histoire de toute l'évolution technique que nous avons connue, il y a 40 ans, c'était génial. Sauf que, vous le faites remarquer, deuxième chose, mais est-ce que l'histoire, elle fonctionne? Et à ce moment-là, vous vous êtes amené à leur expliquer, avec les mots que nous avons, pour des élèves de 5e, on ne va pas employer les termes techniques, mais la notion de suspension de jugement, de suspension volontaire de jugement. En d'autres termes, nous, spectateurs, quand nous entrons dans une salle de théâtre, qui a aucun décor, qui a juste trois acteurs qui jouent, bon, mais mentalement, nous recréons le décor autour d'eux. Quand on voit Jason et les Argonautes, oui, on voit très bien qu'il y a une maquette, que les squelettes sont des maquettes, que les êtres vivants ont été filmés à part, on comprend, mais en même temps, vous leur dites, bah écoutez, retrouvez votre âme d'enfant, c'est le cas de le dire, suspendez votre jugement, entrez dans l'histoire, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que l'histoire est prenante? Oui, mais voilà. Et à ce moment-là, vous avez effectivement toute une réaction sur le cinéma et en même temps sur la question fondamentale, c'est très bien fait, mais est-ce que c'est bien? En d'autres termes, tu vois un Marvel, et ils sont un peu semblables les uns aux autres, il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres, hein, bien entendu. Moi, j'aime bien certains Marvel, il y en a d'autres que je trouve absolument nuls, mais dans l'ensemble, je les aime bien. Simplement, la vraie question, c'est la suivante. C'est très créé de toutes pièces. Est-ce que tu as vraiment peur pour le personnage? Parce qu'il est tellement numérisé que maintenant, il est dématérialisé. Donc, on regarde les effets spéciaux, on est épaté par l'image, avec les infrabasses qui vous tapent au plexus solaire et qui sont destinés encore plus à créer la fascination. Mais est-ce que pour autant, tu sens vraiment le danger? Est-ce que tu as peur pour lui? Ça, c'est une question qui serait intéressante à traiter avec eux. Vous voyez? Oui.
Pour parler de vos élèves,
Tiens, tiens, prends le micro puisque tu es là. Vas-y.
J'ai hâte que les Fablemans soient au programme de collège au
Lequel,
cinéma.
pardon? Ah, le
The
film de Spielberg. Ah oui.
Voilà, j'espère qu'on pourra le montrer à nos élèves, ou en tout cas déjà un extrait sur la fabrique du cinéma. Moi, j'ai adoré le bricolage et comment on y croit et comment il montre comment faire le cinéma. Je pense que ça parlera à nos élèves.
Absolument. À la nuance près. Que Spielberg est un dinosaure comme Scorsese, comme Eastwood, c'est plus l'histoire des gamins, c'est plus leur cinéma, c'est un cinéma de vieux pour eux. Vous voyez? Non, mais c'est vrai. Attendez, Spielberg a dépassé 80 ans.
Ils ont adoré ici.
Oui? Ah oui, non, mais ça n'empêche pas qu'ils adorent. Mais ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que ce que tu dis, c'est très juste, mais en même temps, en tenant compte du fait que ces cinéastes qui étaient totalement les cinéastes des teenagers sont maintenant des papys. Hein. C'est ça, ça va très très vite, vous savez. Hein. Vraiment. Mais tu as raison, ce serait bien qu'on le montre ce film. C'est faux, t'as entendu, hein, c'est faux. Voilà, on avance. Voilà. Je suis désolé, c'est une parenthèse, mais après tout, on a le droit de prendre 2 minutes hein, pour nous, quoi. Tout va bien? Bon, on passe à autre chose. Alors, si vous voulez, je reprends maintenant le diaporama pour vous montrer toutes les pistes que vous pouvez explorer. Et ensuite, on va voir un ou deux extraits. En particulier, ce qui m'intéresserait vraiment, moi, c'est de travailler, parce que je ne l'ai pas fait ici, sur l'inscription du corps dans l'espace scénique et dans l'espace filmique, le traitement du corps de l'acteur, ce qui nous permettra ensuite de faire la transition avec Yuli. Venons-en maintenant donc au titre « Je voulais expliquer passage à l'âge adulte », et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, à un moment donné, la caméra s'approche en plongée de Gene Kelly. Bon, je pense qu'on en a suffisamment parlé, je peux passer. Hein? Alors, premier travail à opérer avec vos élèves, soit avant, soit après pour la projection, l'analyse des affiches. Ce qui est intéressant dans l'affiche de gauche, c'est de voir 2 choses. D'abord, que le genre filmique nous est présenté dans l'image même, puisque le mouvement des jambes des personnages est suffisamment éloquent pour nous faire comprendre qu'il s'agit de danse. Deuxièmement, l'affiche de film, vous savez, est informative. Est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il est nécessaire que je vous rappelle les différentes fonctions de l'image fixe et en particulier les différentes fonctions d'une affiche de film ou d'une publicité. Vous connaissez tout cela ou est-ce qu'il faut que j'y revienne? Ça va? Bon. Donc, en d'autres termes, ici, l'affiche que vous avez là, elle est d'abord et avant tout une affiche qui a une fonction référentielle, c'est-à-dire qu'elle nous renvoie, elle fait référence au contenu du film, puisqu'il s'agit de le vendre. on nous donne le genre, on nous présente les trois personnages principaux, on nous donne la tonalité du film avec le contraste qu'il y a entre le titre et ce que représente le film, et par le biais des sourires, et derrière, en arrière-plan, vous avez évidemment le monde du spectacle, le monde de la comédie musicale, le monde du cinéma qui nous est représenté. Donc on nous indique aussi le milieu dans lequel le film va se dérouler. Vous voyez ? Alors qu'à gauche, dans une affiche qui est beaucoup plus récente, comme le film est devenu complètement connu, on va se contenter de vous représenter les trois personnages, en modifiant d'ailleurs les couleurs de l'affiche originale, vous avez vu. Et on n'en va pas plus loin, parce qu'il suffit maintenant de faire référence à quelque chose qui est déjà connu, ce qui n'était pas le cas dans l'affiche de gauche. Donc une conception d'affiche aussi, elle évolue non seulement en fonction des modes du temps où elle est conçue, mais en fonction des connaissances ou non que le spectateur peut avoir du film, ou de n'importe quel produit. Et ici, regardez ce qui est intéressant, autre affiche du film, mais assez différente. A priori, la composition est la même, c'est-à-dire en diagonale, ce qui est en même temps la composition en V des jambes de David Reynolds, ce qui crée, comme on l'a vu tout à l'heure pour le passage des Alpes, une dynamique et une force indéniablement présente dans l'image. On a à peu près la même technique avec pourtant des composantes tout à fait différentes. En revanche, ce qui a changé, c'est l'absence d'un des trois personnages principaux, qui est Donald O'Connor, alors que vraiment il a le rôle fondamental de celui qui est l'adjuvant du héros, mais surtout qui est celui qui l'aide à passer de son comportement infantile à un comportement plus adulte.
C'est la fiche qu'on donne dans les documents.
C'est celle-ci que vous donnez ?
Oui.
Voilà. Et tu vois, elle est incomplète. Hein, voilà. Mais c'est intéressant, justement. Et en revanche, derrière, vous avez un complément d'informations concernant l'arrière-plan du film, à savoir que vous avez à la fois le cinéma, mais aussi vous avez les différents éléments d'une comédie musicale, avec un, le pas de danse à deux et l'histoire d'amour qui le sous-tend, mais en même temps, derrière, toutes les troupes qui peuvent compléter la danse et qui nous renvoient au Chorus Girl de Busby Berkeley. Vous voyez ? Donc là, on fait appel, en quelque sorte, aux connaissances intuitives du spectateur, sans lui dire a priori, voyez. Donc là, on est aussi dans le dénoté, le connoté, cher à Roland Barthes, hein, bien sûr. Tandis qu'à gauche, à droite, là, vous avez la version restaurée du film en 4K, donc très récente. Ici, il n'y a plus qu'un seul personnage, qui est le personnage de Gene Kelly, puisque c'est lui le personnage principal. Et ce qui fait ressortir évidemment la joie du film, c'est bien entendu le mouvement, mais c'est surtout la couleur rouge du parapluie et le ciré jaune. Ça suffit pour donner un aspect chaleureux à la couleur de fond, qui est pourtant une couleur froide. Mais ça, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. Alors ça peut être intéressant de demander aux élèves de comparer ces affiches entre elles, sans entrer dans les détails techniques, mais de leur demander d'expliquer pourquoi ces différences. Donc comme ça, ça affine leur perception et ça les amène à faire une lecture de l'image fixe sans que vous ayez besoin de le leur dire. Alors, maintenant entrons dans la fabrique. Stanley Donen, le réalisateur, est au milieu. À gauche, Donald O'Connor. À droite, Gene Kelly. Bon, qui sont-ils ? Alors Stanley Donen, c'est un réalisateur qui va au-delà de la comédie musicale. C'est un grand réalisateur qui a touché à de nombreux genres et il est marqué souvent par un cinéma qui est très caustique, voire à la limite cynique parfois, et il dénonce en particulier l'apparence, le consumérisme, voire le capitalisme. Sans être un communiste, mais il voit tous les travers de cette société de la consommation, si vous voulez. Et il a eu un Oscar d'honneur en 1998, et là, au Festival Lumière, en 2010, à Lyon, il est venu présenter la copie restaurée de Chantons sous la pluie, à la Halle Tony Garnier, 5000 places, avec derrière, à l'époque, Bertrand Tavernier, qui était encore vivant. Il avait 86 ans, à cette époque-là, Stanley Donen. Bon. Donc, regardez quelques films de Stanley Donen. Alors, évidemment, Un jour à New York est un immense succès de la comédie musicale, avec Gene Kelly, on l'oublie un peu trop souvent aussi, avec Frank Sinatra, et puis d'autres genres. Alors évidemment, il y a le film avec Doris Day, The Pajama Game, mais à côté de cela, regardez, Drôle de frimousse, Funny Face, avec Audrey Hepburn, une satire du monde des apparences et de la mode.
Charade, une histoire d'amour sur fond plus ou moins d'espionnage avec Cary Grant, Sophia Loren, Gregory Peck, Arabesque, variation, justement, c'est le cas de le dire, sur le film d'espionnage. Bon, Mariage Royal avec Fred Astaire, hein, pas Gene Kelly, comédie musicale. Et parmi ses derniers films, Lucky Lady avec Gene Hackman et Liza Minnelli, je dirais une sorte de parodie du film de gangster des années 30, et Saturne III, un film de science-fiction. Vous voyez le panel très large, et là je suis allé vite, hein, c'est juste pour vous dire qu'il n'est pas le réalisateur qui ne fait que des comédies musicales. En fait, la question qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que oui, comme il y a beaucoup de cow-boys qui chantent devant le feu dans les westerns, mais il y a des fois une interpénétration entre le western et la comédie musicale. Il y avait même, avec Gene Autry par exemple, des cow-boys chantants, on l'appelait comme ça. Et même John Wayne a joué dans des films comme ça dans les années 30. Ceci, maintenant, nous amène à dire Gene Kelly, parce que le film est co-signé. Gene Kelly, Stan et Donen. Pourquoi a-t-il co-signé ? Parce que tout simplement, quand Gene Kelly danse, il s'agit quand même que quelqu'un dirige derrière. Et en fait, sans avoir trouvé véritablement la répartition exacte des rôles des uns et des autres, je peux dire, peut-être sans peur de me tromper, que Stade Donen assure ce qu'on appelle, nous, la réalisation, et que Gene Kelly assure, lui, ce qu'on appelle la chorégraphie, si vous voulez. La preuve en est que Gene Kelly, après la séparation du duo, va faire quelques films, mais qui ne montreront pas un talent extraordinaire de réalisateur, sans qu'il soit mauvais, loin de là. Hein, loin de là. Alors, donc lui, il est la photo date de 1943, il est mort en 1996. Quelques films essentiels, Le Pirate, Les Trois Mousquetaires, Un jour à New York, qui est absolument fabuleux comme comédie musicale, Un Américain à Paris, et Chantons sous la pluie. C'est quand même trois titres phares, hein, faut dire ce qui est. Mais, à côté de cela, à partir des années 50, séparation entre les deux hommes, et deux films encore notoires parmi beaucoup d'autres, Brigadoon de Vincente Minnelli. Minnelli, c'est un autre réalisateur de comédie musicale. À la nuance près, si vous voulez, que ce qui sépare Donen et Minnelli, c'est, je pense, le fait que Minnelli est à la base un esthète et quelqu'un qui est très sensible à la peinture. Et ce travail sur les tableaux dans la comédie musicale se sent dans les films de Minnelli. Vous voyez ? Et évidemment, l'apparition du rôle d'un Américain dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy avec Catherine Deneuve et sa sœur Françoise d'Orléans. Vous connaissez, hein, je pense. Sauf que ce n'est pas une comédie musicale, hein, Les Demoiselles de Rochefort, vous savez. C'est un film enchanté. Enchanté. Trait d'union. Danseur à l'âge de 10 ans, Donen débute à Broadway. Donc il est déjà danseur. Le réalisateur est danseur. Musical interprété par Gene Kelly, donc ils se connaissent sur les planches. Puis, en 1942, Kelly demande à Donen de venir son collaborateur à Hollywood, et ceci en travaillant avec Arthur Freed. À partir de là, ils inventent des chorégraphies innovantes, et surtout, ils proposent des scénarios favorisant un réalisme absent des productions du moment. Je vais me dire, attendez, l'extrait que vous avez montré, il est tout sauf réaliste. Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de réalisme ? Ben, c'est tout simplement, moi, dans la notion de réalisme, je ne dis pas absence d'artificialité, mais simplement volonté de créer un effet de réel au sens où ce qu'on chante et ce qu'on danse s'intègre à la narration et à la logique de l'histoire. C'est pas pareil, vous comprenez ? Et surtout, ils vont développer autre chose que l'éternelle histoire du monde du théâtre, la biographie de compositeur, c'est-à-dire ils vont développer autre chose que la mise en abîme. Alors effectivement, vous allez dire, c'est pas vrai, ici, on voit que le personnage principal est un acteur, on voit l'envers du décor du cinéma. Oui, mais c'est pas seulement le fait qu'on va filmer un film en train de se faire, on va filmer un film en train de se faire qui nous amène à réfléchir sur ce qu'est le cinéma. Cet aspect réflexif, métadiscursif dont je vous parlais ce matin. Pas pareil, hein, pas pareil du tout. Donc, ils arrivent à la MGM, Arthur Freed leur fait confiance, et donc ils triomphent avec Un jour à New York, Chantons sous la pluie, Beau fixe sur New York, échec et séparation du duo. Dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Alors Arthur Freed, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon fichier a été, infecté, donc j'espère qu'il ne sera pas comme ça quand vous l'aurez sur Internet. Arthur Freed, vous avez la photo de lui ici, est mort en 1973, et en 1926, avec Narcio Erdbraun, il écrit la chanson « Sentons sous la pluie » pour une revue musicale. 13 ans plus tard, à la MGM, sous contrat, Il fait venir des cinéastes, Vincente Minnelli et Stanley Donen, et à partir de là, ils vont révolutionner le genre, et regarder les gens qu'ils vont lancer, Leslie Caron, Sid Charisse, dont on disait qu'elles étaient les plus belles jambes de Hollywood, Judy Garland, Jim Kelly, etc. Bon. Alors, dans le film J'entends sous la pluie, à la base, vous avez un scénario commandité, écrit par Betty Comden, une femme, donc à Dot Green, tiré de la chanson Singing the Rain. On construit le scénario autour de la chanson. Bien. Stanley Donen et Gene Kelly utilisent aussi d'autres chansons d'Arthur Freed. Et ils rendent hommage à MGM en intégrant dans le film un ballet, Broadway Melody, j'aurai pas le temps de vous le montrer, qui est aussi un des succès de Freed et Broad. Bon. À partir de là, deux chansons nouvelles, en particulier Fais les rires, dans laquelle vous avez Donald O'Connor qui fait un numéro absolument ébouriffant, j'espère pouvoir vous le montrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous amène à un problème suivant. Qui est l'auteur du film? Est-ce que c'est Arthur Freed, en tant que producteur et en tant qu'auteur de la chanson de base? Et n'oubliez pas qu'aux États-Unis, le producteur a le final cut. Vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin d'y revenir. Alors qu'en France, c'est plutôt le réalisateur. Est-ce que ce sont Gene Kelly et Stanley Donen? En nous posant la question de savoir exactement quel est le pourcentage du travail de l'un et de l'autre. Est-ce que ce sont les scénaristes? Est-ce que ce sont les musiciens? Voilà ce problème. Alors, ça m'amène à vous donner des éléments d'ordre juridique et des éléments d'ordre, je dirais, esthétique. En termes juridiques, en France, l'auteur d'un film, c'est, à la base, l'auteur du roman dont est tiré le film, si c'est le cas, est le scénariste. D'accord ? Deuxième auteur, bien entendu, le réalisateur. Troisième, un, l'écrivain, deux, le scénariste, trois, le réalisateur, et le quatrième, devinez, c'est le musicien. Mais, je dirais, le preneur de son, l'ingénieur de l'image, ne sont pas considérés comme des auteurs du film. Donc les droits d'auteur dans un film, selon les contrats, ils sont répartis selon ces personnages-là. Les autres sont considérés comme des techniciens. C'est la raison pour laquelle, dans le palmarès du Festival de Cannes, il n'y a pas du prix de la meilleure image ou de la meilleure, du meilleur son. Il y a un prix technique qui est donné à côté par la Commission supérieure technique, ce qu'on appelle la CST. Et tous les ans, Frémaux se trouve acculé à la question « Mais pourquoi les musiciens n'ont pas leur prix ?» Bon, vaste problème. Vous voyez, aux États-Unis, c'est autre chose, la notion d'auteur n'existe pas vraiment. Celui qui est propriétaire du film, c'est le producteur. Vous savez, il a le droit de coupure. D'ailleurs, vous l'avez vu dans Babylone tout à l'heure, l'extrait, c'était, je dirais, un jumeau de Harvey Weinstein. Vous savez, le producteur. Bon, c'est pas un hasard, hein, franchement. Bon. La notion d'auteur, elle est typiquement française. Elle remonte aux débuts des années 60 avec la Nouvelle Vague. Et c'est Truffaut en particulier, avec Godard, en fait, toutes les jeunes turcs de la Nouvelle Vague qui ont créé cette notion-là, en disant il n'y a un auteur dans le film, un seul auteur, c'est le réalisateur. Point. Personne d'autre. Et cette notion de cinéma d'auteur, elle a infusé tellement les esprits que, premièrement, elle a permis à des cinéastes comme Howard Hawks, John Ford et Alfred Hitchcock d'être reconnus comme des auteurs en France avant d'être retenus aux États-Unis et, à partir de là, d'être effectivement reconnus dans leur pays. Autrement, ils étaient considérés comme de simples artisans. C'est la raison pour laquelle les réalisateurs américains, que ce soit Eastwood, Spielberg, aiment énormément la France. Parce que c'est en France qu'on reconnaît leur statut d'auteur, pas aux États-Unis. C'est important à savoir. Ce n'est pas la même mentalité, vous comprenez. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Eastwood a accepté de venir pour le premier Festival Lumière à Lyon. Et il a pris ça comme un grand honneur parce qu'on l'invitait dans la ville de la naissance du cinéma. Et ce faisant, on lui reconnaissait son statut. Vous voyez, il en a été très, très reconnaissant à Frémaux. De la même façon, Quentin Tarantino, qui est un mordu de cinéma, il appelait sa maison de production « Bande à part ». Qui est la traduction du titre d'un film de Godard qui s'appelle justement Bande à part, où on voit Anna Karina et deux de ses compagnons courir à travers le Louvre pendant tout le film. Voyez ? Donc c'est important aussi cette notion d'idée d'auteur. Et là, vous pouvez poser la question aux élèves, savoir pour toi, quel auteur d'un film ? Leur demander, mais à qui ?
Et en fait, vous savez, c'est très difficile. Souvent, on classe ça par pays d'origine, etc. Voilà. Bon. Donc, dans ce film-là, vous avez d'abord une satire du monde d'Hollywood, qui est certainement, je dirais, tirée des frasques des acteurs du muet. C'est le début de la première séquence, c'est absolument tordant. Vous avez ensuite un film réflexif et bêta-discursif, je vous l'ai dit. Vous avez une mise en abîme de spectacle en spectacle, et à un moment donné, où Gene Kelly met littéralement en scène l'idylle qu'il est en train de nouer avec Debbie Reynolds. C'est superbe comme séquence, puisqu'il nous montre tous les artifices du cinéma. Puis, vous avez évidemment, pourtant, une histoire extrêmement banale, une rencontre entre la carpe et le lapin qui finit par une histoire d'amour dont on sait déjà qu'elle va bien se terminer, c'est évident. Et le problème, Debbie Reynolds, qui est-elle ? Ben, alors que Gene Kelly est au fait de la gloire, que Donald O'Connor est très connu, elle est débutante. Et pourquoi on la prend ? Parce qu'il faut que dans le film, puisqu'elle incarne une débutante, elle soit elle-même une débutante en tant qu'actrice. Voilà. Mais il faut qu'elle soit à la hauteur. Regardez, qu'est-ce que disait-elle ? J'ai pris conscience à ce moment que j'avais à apprendre à danser assez bien pour seulement paraître passable entre Gene Kelly et Donald O'Connor. Alors là, c'est un autre problème, c'est qu'il s'agit qu'il y ait une harmonie entre les différents personnages pour qu'on ne sente pas que l'un est supérieur techniquement à l'autre. Vous avez peut-être entendu parler du dernier Joker qui vient de sortir avec Lady Gaga. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, Joaquin Phoenix chante bien, il chante bien. Lady Gaga, c'est autre chose. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé dur pour chanter moins bien. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'elle fût à l'unisson de son compagnon, mais aussi parce que dans les personnages qu'elle incarne dans le film, elle n'est pas une chanteuse professionnelle, elle n'est pas Lady Gaga. Donc il fallait exprès qu'elle chante un peu moins bien pour éviter ce trop grand professionnalisme. Donc c'est un travail de composition à l'envers, si vous voulez. C'est encore plus difficile, hein, puis après il faut revenir à son niveau, c'est pas évident, je pense. Hein. Donc, qui est Debbie Reynolds ? Eh bien, elle est morte en 2016, et vous la connaissez bien puisque c'est la maman de Carrie Fisher, la maman de la princesse Leia de Star Wars. Et elles sont mortes toutes les deux un jour d'intervalle. Elle est morte le lendemain de sa fille, je pense que l'AVC qui a suivi était lié à ça. Bon, ça c'est du gala, voici, mais comme ça c'est une façon pour vous de parler à vos élèves, hein. Il faut faire feu de tout bois, hein. Voilà. Bon. Cette histoire d'amour, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire d'évolution grâce à un compagnon, un faire-valoir de toujours, c'est Donald O'Connor. Regardez la plasticité de son visage. Fabuleux, hein, quand même, hein, vraiment fabuleux. Et évidemment, qui est Donald O'Connor ? C'est quelqu'un qui a joué dans 58 films et il est monté sur les planches à l'âge de 13 mois. Et déjà, à 13 mois, il gagnait $25 par semaine, ce qui était pas mal du tout, et ça permettait à ses parents de le faire travailler dans leur monde, exactement comme c'était le cas pour Buster Keaton. Voyez ? Alors, il s'est fait connaître par une série de films qui étaient assez mauvais, qui s'appelait Francis. Francis, c'était une mule, et lui dialoguait avec la mule. Et Clint Eastwood a fait une partie de ses débuts dans un de ces films-là, si vous voulez. Voilà. Sauf que là, évidemment, quand il se tourne vers le cinéma, et particulièrement dans Chantons sous la pluie, on voit son talent absolument extraordinaire, non seulement d'acteur, mais aussi de danseur et de chanteur. C'était vraiment quelqu'un d'assez épatant, et je trouve que c'est dommage qu'on l'ait oublié. Donc, on en vient à une séquence que je veux absolument voir avec vous, c'est Good Morning. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Don Lockwood, le personnage principal, malheureusement a dû, comme tout le monde, passer au sonore. Sauf qu'il joue avec, comme partenaire, une actrice dont tout le monde pense qu'elle est sa fiancée. Lui, il ne peut absolument pas l'encadrer, il n'y a pas d'autre mot. Il la déteste, et d'ailleurs, cette jeune femme est une mauvaise personne. Elle est mauvaise actrice, mauvaise chanteuse, mauvaise, danseuse, et en plus de ça, c'est une mauvaise femme, si on peut dire. Mais elle est imbue d'elle-même, et malheureusement, quand il s'est agi de passer au parlant, catastrophe, elle a une voix épouvantable, plus les problèmes techniques qu'on a vus tout à l'heure, la première est véritablement un four absolu. Et donc, Don Lockwood se rend compte que son époque du muet est complètement terminée, comme dans The Artist, hein, avec Jean Dujardin, c'est toujours la même thématique, et il envisage carrément de se reconvertir. Et heureusement, il a ses deux partenaires, en particulier Donald O'Connor, qui vont le sortir de sa dépression. Et curieusement, l'action se déroule de nuit et il pleut dehors. Vous voyez, cette thématique de la pluie qui revient sans arrêt. Voilà. Alors je monte la séquence. Ce qui m'intéresse là, c'est que vous avez vu que la caméra n'est pas placée de la même façon que dans la séquence que nous avons vue tout à l'heure. Elle est à hauteur d'homme. Donc ici, le choix de la mise en scène, c'est de placer la caméra à la place d'un spectateur qui serait à hauteur de la scène. Et là, on est en quelque sorte au théâtre. Et le montage, comme tout à l'heure, en revanche, cherche à effacer le plus possible les points de raccord, de manière à donner l'impression d'une fluidité, d'une continuité absolue. Ça, j'ai déjà dit, j'y reviens pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on est à la fois dans un effet de réalisme dont on parlait tout à l'heure. L'idée à la jeune femme vient, quand elle ouvre le réfrigérateur, elle dit « mais oui, il y a des effets de réel ». Mais en même temps, la caméra se déplace d'une pièce à l'autre en coupant en deux un mur. Donc on est toujours dans le réel artificiel et dans l'artificiel réel, sachant que ça c'était une des conventions des films des années 30. Vous prenez Frankenstein de James Whale, il y a le même procédé. Ça fait partie des conventions, vous voyez, de l'acceptation du spectateur qui suspend son jugement. En revanche, l'extrême facilité avec laquelle les personnages dansent nous font croire que c'est simple, mais vous avez compris que là c'est absolument nécessaire de faire des coupes parce que physiquement ils ne peuvent pas y arriver. Et le bruit des claquettes est évidemment ajouté en post-synchronisation. Simplement, pensez au passage où on voit les trois personnages, et particulièrement Debbie O'Connor au milieu, Debbie Reynolds au milieu, descendre en dansant les différentes marches sans glisser ni se casser la jambe. Je vous déconseille d'essayer de faire ça en rentrant chez vous ce soir si vous n'êtes pas entraîné au préalable. C'est excessivement dangereux, vous voyez. Et pourtant, ça semble tout simple. Pourquoi ? Parce que il s'agit là encore de traduire cette fluidité. Et cette fluidité, c'est là que je voulais en venir. La caméra, nous avons ici un format à 37, donc les corps occupent tout l'espace de l'image, tout le format, et on les filme complètement ici, de pied en cap, pour montrer que tout le corps et tous les corps sont fluides et en harmonie. Et ça, c'est une vision du monde, parce que ça correspond à une vision du monde optimiste, qui est l'American Way of Life. Vous voyez, donc tout film est politique, même une comédie musicale, puisque derrière vous avez une vision de la société et de la conception du monde qu'a cette société. C'est pour ça que les films contemporains sont si noirs, parce qu'ils correspondent à notre noirceur ou notre pessimisme intérieur, hein, ni plus ni moins. Vous voyez, et c'est intéressant aussi d'étudier les sentiments, les sociétés à travers les représentations qu'elles se donnent d'elles-mêmes. Voilà, tout va bien. Alors malheureusement, il faut que j'avance parce qu'on n'aura pas le temps de voir Yuli. Yuli est d'une complexité. Pas mal. Ici, vous avez un extrait du PDF que je vous ai mis en pièce jointe sur les conditions qu'on demande aux acteurs de comédie musicale de remplir. Chanter, danser, jouer. D'ailleurs, vous avez vu dans la séquence que nous venons de voir, Lina ne sait ni chanter, ni jouer, ni danser. Tiercé gagnant. Ah, la totale, comme on dit. Hein, voilà. Or, comme je vous le faisais remarquer, le rôle masculin, c'est surtout de mener la danse, indépendamment de la comédie. Le rôle féminin, c'est évidemment d'accompagner la danse, mais c'est aussi de savoir chanter plus que l'homme. Ça, on n'y pense pas suffisamment. Donc, vous voyez, il y a aussi des répartitions de rôles ici qui tiennent compte des fonctions des personnages. Voilà. Et puis, bon, Bessie Berkeley, je n'y reviens pas. Ce plan, je n'y reviens pas. Sid Charis qui fait ses débuts ici et qui va marquer un peu une rupture dans la représentation du corps à l'écran, c'est-à-dire que quand elle va entrer en scène, on va d'abord voir sa cheville, son pied, sa cheville et petit à petit le corps complet de la jeune femme s'inscrire à l'écran. Alors à la fois c'est une marque un peu de sensualité, hein, faut dire ce qui est, on ne va pas tourner autour du pot, mais en même temps c'était déjà une interrogation que se posait Stan et Donen sur la fragmentation ou non du corps à l'écran. En fait, l'un des éléments, alors là j'ouvre une parenthèse encore, ça c'est pas pour vos élèves, c'est pour vous, c'est que ce qui caractérise la pornographie au cinéma, c'est la fragmentation du corps, parce que le corps de la femme ou de l'homme sont réduits à leurs attributs virils ou féminins, et ils sont déshumanisés puisqu'ils ne sont plus que des morceaux de chair. C'est un des éléments, vous voyez. La post-synchronisation, c'est vu. Et une petite anecdote assez amusante. Debbie Reynolds est censée doubler le personnage de Lina qui est joué par Jean Hagen. Sauf que Debbie Reynolds avait un accent texan furieux. Donc paradoxalement, c'est Jean Hagen qui double Debbie Reynolds. C'est bizarre, quand même. C'est vraiment un tour sur soi. Et la chanson sous la pluie, que Debbie Reynolds double, c'est une troisième personne qui la double
en train de doubler elle-même le personnage de Jean Hagen. Donc là, on est dans une mise en abîme vertigineuse, et on est là avec un élément qui vous permet de faire comprendre aux élèves toute l'artificialité du spectacle. Et maintenant, quelques pistes pédagogiques. Donc, en général, quelle que soit votre discipline, le système hollywoodien des studios, le star system et je dirais, les excès qu'il entraîne, vous voyez la séquence de début qui est tordante pour montrer la vacuité des personnages, de certains personnages, le problème du passage du parlant au muet, et les genres au cinéma, sachant que la notion de genre est typiquement hollywoodienne en termes de cinéma. Ce sont les studios hollywoodiens qui ont décidé de donner des appellations à différents films en fonction des genres, parce que tout simplement ça permet aux spectateurs de se dire, je vais voir un western, je vais voir une comédie musicale, je vais voir un film de gangster, et donc c'est un, ni plus ni moins qu'une classification destinée à créer un appel commercial. Voyez. Et à partir de là, on a eu des réflexions esthétiques, thématiques, sur un genre, alors qu'au départ, la notion de genre est essentiellement, encore une fois, commerciale. Puis, pour les films en particulier, donc l'évolution des personnages, la structure du film, le mélange des genres, les numéros musicaux, le traitement du corps dans l'espace, les décors, la métadiscursivité, l'analyse de séquences, tout ça, nous l'avons fait. Plus largement, en anglais, ben, je crois que traduire et commenter les chansons, ça serait pas mal, et éventuellement, voir avec le collègue du musique leur orchestration différente. En ce qui concerne les arts plastiques, le travail sur les décors, et dans les dossiers que je vous ai remis, il y a toute une étude sur le thème de la pluie dans les arts, pas seulement au cinéma. Donc, référez-vous dans ces dossiers, vous trouverez de quoi nourrir votre cours. Et enfin, d'audiovisuel, vous pouvez vraiment faire un essai de post-synchronisation ou simplement en classe, mettre un gamin devant l'autre et puis essayer de les faire se synchroniser. Ça peut être intéressant, tu l'as fait.
J'ai envie de le faire en anglais.
Oui, essaie, tu diras, ça peut être sympathique hein, quand même. Voilà. Donc, au niveau de la bibliographie, achetez à toute force le film hollywoodien classique de Jacqueline Lacache. Vous trouvez avec quelques euros sur Internet et la quinzaine de pages qu'elle consacre à la comédie musicale vous expliquera tout. Il est vraiment excellent ce livre. Bon, évidemment la biographie de Gene Kelly. Puis vous avez la comédie musicale écrite par Michel Chion dont je vous ai parlé beaucoup. Il est très intéressant, mais il s'adresse déjà à des gens qui connaissent un peu parce qu'il procède plutôt à une analyse esthétique qu'à une véritable analyse historique, si vous voulez. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé d'ailleurs l'analyse de la chanson dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, l'encyclopédie de la comédie musicale, avec tous les défauts et les qualités que peuvent avoir ce type de publication, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'informations, et suivant les films, plus ou moins de pertinence. La comparaison entre Fred Astaire et Gene Kelly, bien sûr, et le fameux livre sulfureux d'Hollywood Babylon dont je vous parlais tout à l'heure. Hein? Voilà. Alors, au bout du compte, moi je crois que ce qui est le plus important à faire ressortir à vos élèves, c'est qu'ils doivent entrer dans un film qui n'est plus de leur univers, mais qui peut leur parler malgré tout s'ils acceptent justement d'entrer dans cet univers-là et y prendre beaucoup de plaisir, ne serait-ce qu'aux numéros musicaux ou aux séquences de comédie absolument tordantes, il faut dire ce qui est. Ou à l'histoire d'amour et sa mise en scène dans les studios.